notre cher frère Adnan qui va nous partager la parole. Levez-vous, on va prier pour lui. Seigneur, merci pour Adnan, merci pour ce qu'il est, Seigneur. Seigneur, un frère merveilleux, Seigneur, qui est avec nous et qui va nous partager ta parole, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Et Seigneur, que toute parole qui sort de sa bouche soit des paroles de bénédiction, des paroles qui vont toucher notre âme et porter du fruit. Amen.
Amen. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Amen. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Déjà, ceux que je n'ai pas salués, bonjour. Et ceux qui, les frères et sœurs qui sont sur Zoom, également, je vous salue au nom de Jésus. Voilà, donc c'est vrai, quel Dieu merveilleux nous servons. Et quel Dieu merveilleux, je remercie les frères et sœurs de la louange, vraiment de pouvoir avoir ces moments de communion, ces moments où nous sommes vraiment tous réunis, où nous sommes tous d'un seul cœur, d'une seule âme, pour vraiment louer notre Père Céleste. Et nous savons que l'Esprit témoigne, me témoigne, vous témoigne sûrement que notre Père Céleste est heureux quand ses enfants sont là pour l'adorer. Amen. C'est vraiment une bénédiction que nous avons, que le Seigneur nous fait, et nous sommes vraiment au bénéfice de cette bénédiction. Voilà, donc je voulais également vous partager, donc pour ce message, quelque chose dont nous avons l'habitude d'entendre, parce que c'est quelque chose qui nous fait du bien, nous le chantons, nous l'avons chanté, c'est notamment sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est quelque chose qui nous est familier, je l'espère, on en est plus ou moins conscient, c'est quelque chose, j'allais dire, c'est comme l'amour de Dieu. C'est quelque chose où on entend souvent parler de l'amour de Dieu, de la miséricorde, parce que c'est les caractéristiques de notre Seigneur. Mais en préparant ce message, j'ai eu à cœur justement de retourner dans la Bible pour un peu que ce soit pour faire ressortir finalement, pour s'arrêter un instant. Parce que les choses qui nous paraissent tellement évidentes, dont on parle de manière habituelle, finalement, ça perd un peu de sa saveur. Et j'ai eu vraiment à cœur de pouvoir, qu'on puisse retourner, qu'on puisse être vraiment un temps de rafraîchissement, en ces temps de forte chaleur, mais rafraîchissement spirituel, vraiment pour replonger dans la parole de Dieu et voir toute la miséricorde, tout l'amour que Dieu a pour ses enfants. Amen. Donc, voilà, cette miséricorde. Alors, cette miséricorde, j'allais dire, c'est quelque chose qui est habituel en tant que chrétien. On entend le mot miséricorde assez souvent. Le monde non chrétien ne parle pas de miséricorde. Il parle plutôt de bons sentiments, d'aide aux personnes dans le besoin. Le monde religieux parle plus facilement de bonté, de charité, de pitié. Voilà. Alors, la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, en prenant le dictionnaire, hein, ça vient du latin misericordia, c'est-à-dire qui a le cœur, c'est quelqu'un de miséricordieux, c'est quelqu'un qui a le cœur sensible au malheur d'autrui. Voilà, tout simplement. Donc, alors, en hébreu, il est traduit par deux mots. Alors, le mot ra'amim, qui veut dire entraille, et le mot reset, qui signifie un amour fidèle. Et donc, si on prend un peu ces deux concepts, c'est-à-dire que la miséricorde est donc une caractéristique de Dieu lui-même qui est pris aux entrailles pour sa création. Et ça, j'aime beaucoup cette définition, pris aux entrailles, c'est-à-dire comme une mère qui porte son enfant, qui a des sentiments même longtemps après, quand son enfant est adulte, qui est pris aux entrailles parce que peut-être son enfant est en difficulté, peut-être son enfant a des soucis. Voilà, donc notre Seigneur est pris aux entrailles pour la création. Une autre définition, la miséricorde, c'est lorsqu'on pardonne aux coupables. Et nous, en tant que chrétiens, ça doit nous parler également. Donc, j'ai eu à cœur de poser quelques questions, voir cette miséricorde de Dieu à travers la parole de Dieu? Est-ce finalement une preuve de faiblesse de Dieu envers l'homme, ou plutôt est-ce quelque chose d'autre? Donc, en première partie, j'ai eu à cœur de voir justement cette miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament, avec quelques exemples, et nous verrons en deuxième partie, vous avez compris, la miséricorde de Dieu à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Et enfin, nous nous interrogerons comment, surtout, je peux refléter cette miséricorde. Donc, en première partie, la miséricorde de Dieu, Dieu est la source de toute miséricorde. Alors, lorsque nous lisons dans ce passage que nous connaissons dans Exode, Exode 33 au verset 17 à 20, donc nous lisons, lorsque Moïse demande à l'Éternel de voir sa gloire. Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Alors nous sommes, le contexte, après l'épisode du veau d'or et de la rébellion du peuple contre Dieu. Moïse, dans les versets précédents, a plaidé pour le peuple. Un peu plus loin, nous lisons, alors après, j'avais un deuxième en parallèle, dans Romains 9 au verset 14 à 18. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alors, vous pouvez noter également que dans certaines traductions, vous trouverez le mot miséricorde, et dans des traductions plus modernes, vous trouverez le mot compassion. Mais le terme est le même. La définition, je veux dire, est la même. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en moi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Amen. Voilà, donc, tout d'abord, Dieu est la source de toute miséricorde. Il la distribue, comme il dit à sa parole, à qui il veut et comment il veut. C'est la souveraineté absolue de Dieu. Voilà, personne ne peut forcer la main de Dieu. Hein, nous avons tous des demandes spéciales, mais Dieu est souverain en toutes choses. Et c'est important de s'en souvenir. Il est également à l'initiative de toute miséricorde. Hein, c'est lui qui, dans sa relation avec Moïse, mais finalement, lorsqu'on lit, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ce n'est pas que des belles histoires bibliques ou des belles choses, c'est vraiment, comme dit la parole, tout est fait pour notre exhortation, à notre apprentissage. Finalement, Moïse, j'ai envie de dire, c'est nous, frères et sœurs. Nous sommes, le Seigneur veut nous apprendre, lorsqu'il nous parle dans la Bible, il veut nous apprendre vraiment une relation particulière. Il veut que cette relation d'enfant à notre Père Céleste se développe. Et il attend que sa créature, là c'était Moïse, lui demande des preuves de son amour pour que cette relation se développe. Dieu répond à nos demandes, mais, c'est important de le souligner, selon sa volonté et à sa façon. Parce que souvent, c'est vrai que nous entendons des témoignages. Alors les témoignages, ça exhorte, c'est très bien. Le peuple entend, on se réjouit quand il y a des témoignages. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que Dieu répond à sa façon et à son moment. C'est le moment de Dieu. Parce que souvent, on a tendance à vouloir calquer, le témoignage du frère ou de la sœur en disant, mais Seigneur, pour le frère, tu as répondu de telle façon, tu as répondu à tel moment, et pour moi, je ne vois rien venir. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Et on peut être un peu, j'allais dire, un peu interpellé par, entre guillemets, ce silence de Dieu. Mais Dieu répond, encore une fois, Dieu attend que sa créature lui demande des preuves de son amour, mais rentrons vraiment, ayons conscience de la souveraineté de Dieu dans nos vies. Amen. Parce que Dieu connaît les choses beaucoup mieux que nous. C'est-à-dire que même si pour nous, j'ai envie de dire, ça paraîtrait logique, il nous fasse du bien à tel moment, à tel jour, parce que on voit les choses telles que nous, en tant qu'humains, nous les voyons, le Seigneur connaît toute notre vie. Amen. Et donc, s'il ne nous fait pas passer par le chemin le plus court, c'est qu'il sait, il nous protège et il sait qu'il y a des bénédictions bientôt qui viennent. Amen. Donc, Paul reprend dans son épître, dans l'extrait que nous avons lu un peu, le passage de Exode, et justement, il met en exergue justement cette pleine souveraineté de Dieu. Et également, alors Paul en plus était quelque chose de particulier, puisqu'il était du peuple d'Israël, il était pharisien, il avait, j'ai envie de dire, il cochait toutes les cases en tant que juif. Mais il a compris, petit à petit, Dieu lui a révélé cette pleine miséricorde et cette pleine souveraineté de Dieu. Et notamment, nous sommes également au bénéfice de cette pleine souveraineté de Dieu, car Paul écrit également dans Romains, au chapitre 9, au verset 25, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. » C'est-à-dire que voilà, là nous voyons encore une fois cette miséricorde de Dieu, cette pleine souveraineté de Dieu, puisque nous, a priori, la plupart d'entre nous, nous sommes issus d'ethnies, de races, même si on ne parle plus de race, il n'y a qu'une race humaine, mais d'ethnies, d'origines différentes, et pourtant nous faisons partie du peuple de Dieu. Dieu a fait de nous vraiment un seul et même peuple avec le peuple juif. Et ça, c'est vraiment la pleine souveraineté de Dieu. Donc dans cet exemple de Moïse également, Moïse n'a pas hésité à demander à Dieu de voir sa gloire. Alors c'est quelque chose d'extrêmement interpellant. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu ne l'a pas rejeté pour cela. Il lui a pas dit, qui es-tu? Tu es un simple humain. Comment tu peux me demander de voir ta gloire, de voir ma gloire? Mais au contraire, il a encouragé. Moïse a cherché à voir la gloire de Dieu pour magnifier le Dieu Tout-Puissant, non pour sa propre gloire, ou celle d'idole. Et vous, frères et sœurs, est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Alors, ça sera peut-être pas, et je pense pas forcément, la même façon que Moïse a pu voir cette gloire, où Dieu s'est présenté à lui, pas face à face, mais lui a présenté, il a pu voir une partie de la gloire de Dieu. Mais c'est important de se dire que, voilà, que ce soit Moïse, que ce soit nous, il n'y a pas de petite personne dans le peuple de Dieu. Et si Dieu cherche, Dieu nous demande vraiment, il veut cette relation, et n'hésitons pas à demander à Dieu que nous puissions voir sa gloire dans nos vies tous les jours. Ce n'est pas quelque chose réservé à des personnes illustres de l'Ancien Testament, ou des prophètes, ou des rois, ou à des apôtres. Ce n'est pas comme on dit, des grands hommes de Dieu. C'est chacun, chacune d'entre nous, même on a une petite place, on a tous une place de choix avec le Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin. Amen. Qu'on ait cette flamme, ce cœur qui brûle de vouloir voir la gloire de Dieu. Et ne disons pas dans notre cœur, mais je suis indigne, je suis indigne, j'ai une petite place, je suis insignifiant. Il n'y a rien d'insignifiant avec Dieu. Nous avons tous vraiment ce prix et cette valeur pour notre Seigneur. Et c'est vraiment important que nous puissions de nouveau ce matin être vraiment au bénéfice de cet amour de Dieu pour ses créatures. Donc également, Dieu reprend, Paul, pardon, prend l'exemple de Pharaon. Il prend l'exemple de Pharaon. Vous connaissez tous l'histoire de Pharaon qui a été endurci. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant parce que la parole de Dieu interpelle. Elle interpelle nos habitudes, c'est-à-dire comment Pharaon aurait-il pu finalement accorder à Moïse ce que Moïse lui demandait, puisque Dieu a endurci son cœur. Et si Dieu endurcit son cœur, il n'y avait aucune chance que Pharaon puisse faire autre chose. Sauf que Dieu connaît les cœurs de chacun. Et si les cœurs sont hautains, résistent à la miséricorde de Dieu, à sa bonté, eh bien, il y a un moment, alors Dieu tente de renouer le contact, mais il y a un moment où Dieu se détourne. Parce que pour les cœurs tellement durs, Dieu attend, voilà. Il y a un moment où Dieu va se détourner, nous voyons l'exemple de Pharaon. Donc, si nous avons des blessures, si nous avons un cœur froid, si nous avons des, voilà, des blessures, ne permettons pas à l'ennemi, ne permettons pas au diable d'essayer de la rancune que nous avons entre frères et sœurs, qu'elle puisse grandir, parce que cette rancune, une fois qu'elle grandit, ça sera comme des orties, des ronces, et puis ça va vraiment un peu, ça va nous détourner de cette relation avec notre Père Céleste. Et au final, c'est ce que l'ennemi veut. Ne laissons pas l'ennemi gagner. Ne laissons pas, Dieu est tout-puissant, et apportons-lui toutes nos blessures, même ce qu'on ne peut même pas nommer, apportons-lui au pied de la croix. Amen. Et nous voyons également que Dieu a compassion de son peuple. Nous lisons dans Deutéronome 30 au verset 3. C'est des paroles que nous connaissons par cœur et que nous aimons. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, alors l'Éternel ton Dieu aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Amen. Donc nous voyons cette pleine, ce renouvellement de l'alliance entre Dieu et le peuple, qui était à l'époque le peuple hébreu. Malgré la désobéissance du peuple et l'irritation de Dieu, Dieu a montré qu'il voulait le meilleur et avait compassion, qu'il était sensible au malheur et qu'il n'était pas sourd au cri du cœur. Et nous voyons le peuple juif qui avait été, il y a plus de 2000 ans, dispersé de par toute la surface de la terre, avec des moments plus ou moins de réussite, on va dire, dans les nations, mais également souvent des moments de persécution. Hein, il n'y a qu'à voir l'histoire pendant 2000 ans. Donc, beaucoup de contemporains ou même parmi le peuple juif auraient pu dire, finalement, Dieu s'est détourné de nous, il n'y a plus d'espoir. Mais pourtant, Dieu a été fidèle à sa parole. Dieu a été fidèle et nous avons vu que malgré tout, malgré tout ce chemin de malheur que le peuple juif a traversé, Dieu a préservé un reste et l'a fait revenir en terre d'Israël, dans la terre sainte. Voilà. Donc nous voyons également, c'est une des réalisations prophétiques qui sont, j'allais dire, très parlantes également. Mais également, la compassion de Dieu ne s'arrête pas là. Dieu a compassion plus que comme un Dieu tout-puissant, mais comme un père a compassion de ses enfants. Et nous lisons dans le psaume 103, au verset 17 et 18, je vais lire qu'un petit verset. Donc, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Voyez, donc déjà, ce qui est intéressant, en plus, en lisant le psaume, le psaume 103, c'est que déjà, Dieu se présente en tant que père. Donc, l'image du père dans l'Ancien Testament était déjà présente. Donc Dieu s'exprime comme un père à ses enfants. Et également, voilà, et il recherche cette relation intime et de confiance avec son père, faite de crainte respectueuse et d'amour. Et nous, frères et sœurs, où en est notre relation d'enfant de Dieu avec notre Père Céleste? L'appelons-nous Père Céleste par habitude chrétienne? Savons-nous ce que signifie avoir un Père Céleste, un créateur plein d'amour? C'est la question, je me la pose également. Est-ce que j'ai une relation formelle, légaliste avec lui? Simplement parce que, voilà, je suis chrétien, donc je dis mon Père Céleste. Ou est-ce que c'est une relation pleine de confiance où je peux tout lui confier? Et j'apprends surtout à écouter ce qu'il a à me dire. Voilà, c'est comme la relation parent-enfant. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort et de pouvoir réaliser de pouvoir réaliser, hein, c'est comme vous, frères et sœurs, si vous êtes parents, malgré les bêtises ou les erreurs de vos enfants, pouvez-vous dire que leur devenir et leur bonheur ne vous préoccupent pas ou vous préoccupent moins qu'avant parce qu'ils ont fait des bêtises? Est-ce que malgré tout, vous avez pas, vous n'êtes pas pris aux entrailles pour vos enfants et également pour ceux qui ont leurs parents, malgré peut-être des déceptions, des incompréhensions envers ses parents, ou peut-être parce qu'il y a eu des jalousies étant plus jeune avec les frères et sœurs, qui peut dire qu'il les aime moins ou qu'il ne se soucie pas de ses parents qui sont peut-être en fin de vie ou de ses parents qui sont isolés? Et alors le Père Céleste, si nous-mêmes, en tant qu'humains, nous avons notre cœur qui vraiment qui brûle pour nos parents, pour nos enfants, à plus forte raison, notre Père Céleste, malgré nos faiblesses, mais j'allais dire le Seigneur nous aime avec nos faiblesses. Il nous aime, ne cherchons pas à être meilleurs pour essayer de l'impressionner. Il nous aime tel que nous sommes. Amen. Il nous aime tel que nous sommes. Et soyons-lui reconnaissants, soyons-lui reconnaissants de pouvoir vraiment d'avoir cette relation, j'allais dire fraternelle, mais plus que fraternelle, cette relation de père à enfant. Donc ayons voyons cette miséricorde de Dieu, nous le voyons dans l'Ancien Testament avec l'exemple avec Moïse, avec l'exemple avec le peuple juif, cette miséricorde en tant que Dieu, mais en tant que Père céleste, et cette miséricorde de Dieu, cet amour de Dieu a eu le summum, a explosé d'amour lors de la venue de Jésus-Christ, son Fils. Nous voyons également donc Jésus-Christ est le cœur de la miséricorde de Dieu. Nous lisons dans Éphésiens 2 au verset 4 à 6. Donc ça c'est Paul qui parle. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts pour nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Voilà, nous qui étions morts pour nos péchés, nous a rendus vivants avec Christ. Quel amour, quelle miséricorde que Dieu a eue pour sa création. Depuis la chute, il savait que nous étions condamnés, que l'être humain, que la création était condamnée, mais il n'a pas regardé, il n'a pas rejeté la création. Par son cœur brûlé d'amour malgré tout le mal que l'être humain pouvait faire sur terre, son cœur brûlé d'amour pour sa création et il a envoyé son Fils unique pour venir nous retirer de la mort spirituelle et vraiment nous porter vers les lieux célestes. Donc nous savons tous et nous voyons, et le Nouveau Testament témoigne que ce ministère de Christ, il est allé jusqu'à la mort infâme, il a pris les péchés pour nous et il est ressuscité. Cette miséricorde de Dieu resplendit de manière merveilleuse et porte un nom unique, Jésus-Christ. Sa venue et son ministère sur terre de notre Seigneur Jésus nous montrent également comment la relation filiale entre le Père Céleste, entre notre Père Céleste et son Fils bien-aimé, qui est notre grand frère, doit exister et nous montre le chemin d'une relation intime avec notre Père. Dans Matthieu au verset 9 et Matthieu au chapitre 9 et au verset 36 à 37, nous lisons, alors c'est une parole que j'aime beaucoup, voyant la foule. Alors bien sûr que Jésus a fait énormément de choses, des miracles, des guérisons, il a ressuscité les morts, mais avant tout, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Oui, il est ému de compassion, il était ému de compassion hier, il est ému de compassion pour la foule aujourd'hui. Nous avons l'habitude d'entendre les merveilles et les miracles que Jésus-Christ a fait il y a plus de 2000 ans. Son autorité lorsqu'il prêchait, aux foules, le royaume de Dieu. Nous souhaitons lui ressembler à avoir cette même autorité. Mais est-il Est-ce que Jésus-Christ est simplement pour nous un guérisseur, un grand enseignant, un très grand réformateur religieux? Il est beaucoup plus que ça, frères et sœurs. Il est le Fils de Dieu, son cœur brûlé de compassion pour la foule. Il se rendait compte du désarroi de la foule et voulait avant tout lui apporter le salut et l'amour de Dieu. Et nous, frères et sœurs, et moi, avons-nous cette même flamme qui brûle dans nos cœurs pour tous les êtres vivants qui ne connaissent pas encore Christ, nos voisins, nos collègues, les personnes que l'on croise, les commerçants, et même entre nous, frères et sœurs, nous qui connaissons les Christ et qui connaissons la parole de Dieu, est-ce que en tant que frères et sœurs, nous avons cette même compassion, cette même amour? C'est vrai que souvent, on est plus facilement, j'allais dire, blessé par des frères et sœurs que par des gens du monde. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent, ah ben les gens du monde, bon, je lui pardonne parce qu'il ne connaît pas Christ, il ne connaît pas la parole de Dieu. Mais c'est vrai que les frères et sœurs, comme une famille, nous sommes réunis, on ne s'est pas choisi, c'est le Seigneur qui nous a choisi. Comme le Seigneur ne vous a pas choisi les frères et sœurs, si vous en avez, hein, alors c'est peut-être des personnalités différentes, des façons de comprendre différentes, des façons d'avancer avec le Seigneur différentes, des façons peut-être qui énervent, des façons peut-être qui interpellent, c'est vrai. Mais avons-nous, le Seigneur nous dit, cette compassion pour les frères et sœurs? Parce que souvent, on chante les bienfaits de Dieu, on chante la miséricorde de Dieu, mais on est blessé, on a été blessé par un frère, on a été blessé par une sœur. Alors on dit, souvent on dit, on entend, on peut dire, oh, mais je lui ai pardonné. Mais le cœur n'est pas pardonné. Le cœur est blessé toujours. Alors on veut faire bonne figure, mais on n'est pas en paix. Et lorsqu'on loue le Seigneur, il y a toujours quelque chose, un peu une rancœur. Et encore une fois, l'ennemi est là. Il ne peut pas nous toucher, mais l'ennemi est là pour essayer un peu de, juste pour essayer, pas un peu, pour essayer vraiment que cette rancœur puisse naître entre nous, frères et sœurs. Alors, vraiment, c'est quelque chose de très important. Ne perdons pas, ne jetons pas cette richesse que le Seigneur nous a donnée les uns pour les autres. Soyons compatissants, mais reflétons l'amour de Dieu. Reflétons cet amour de Dieu, c'est-à-dire n'essayons pas de dire « oui, je lui pardonne, je vais essayer de lui pardonner comme le monde ». Comme j'allais dire, le monde cherche à pardonner. Mais le Seigneur nous dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et on pourrait rajouter, vous tous qui êtes blessés, vous tous qui êtes meurtris, venez à moi, vous tous, et je vous donnerai du repos. Donc venons au pied de Jésus. Venons au pied de Jésus, c'est capital. C'est capital. Réalisons vraiment l'amour de Dieu et réalisons vraiment, voulons. Nous devons refléter cet amour et cette miséricorde de Dieu. Vraiment, on doit refléter chacun, chacune d'entre nous, avec nos faiblesses, avec notre façon de notre compréhension. Mais voilà, ayons un cœur sincère avec le Seigneur. Ne cherchons pas à être, j'allais dire, plus beau que tel que nous pensons être, ou plus religieux, ou plus fort. Venons tel que nous sommes, encore une fois. C'est quelque chose de très important et j'allais dire, c'est vraiment quelque chose dont nous devons être conscients. Donc enfin, pour terminer, comment justement je peux refléter la miséricorde de Dieu? Donc, je l'ai dit, à travers ces exemples de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà, donc avant toute chose, c'est développer une vraie relation d'enfant de Dieu avec mon Père Céleste. Qu'il n'y ait pas de formalisme, de distance. On peut tout lui dire et l'écouter. Demandons-lui de nous enseigner. Renouvelons, ayons conscience de notre identité de chrétien, de notre identité d'enfant de Dieu. Ça doit passer par la prière, chez soi, dans la chambre. Ça passe par la lecture de la parole de Dieu. Ça passe par les différentes activités et la communion fraternelle. Ça passe par la louange, ça passe par beaucoup de choses, mais développons cette relation d'enfant de Dieu. Et chacun, chacune d'entre nous a une relation unique avec le Seigneur, a un appel unique avec le Seigneur, a une place unique avec le Seigneur. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu, mais chacun et chacune, et demandons au Seigneur, quel est mon appel, et cette question n'est pas réservée qu'aux pasteurs, ou aux futurs pasteurs, ou aux anciens, ou aux gens qui ont des activités. Elle est réservée à toi, elle est réservée à chacun d'entre nous. Ayons, deuxièmement, les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Il doit être notre modèle de vie, notre inspiration. Et avec cette question, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place, dans ma situation? Donc c'est quelque chose, et ce n'est pas que des, j'ai envie de dire, des belles paroles, c'est quelque chose qui doit nous inspirer tous les jours. C'est quelque chose qui doit vraiment nous faire marcher, nous faire vivre. Comme la respiration, finalement, est quelque chose d'automatique, ça doit vraiment être une relation particulière. On doit avoir tous et toutes une relation particulière chaque jour avec notre Seigneur. Donc les moyens, je l'ai dit, la prière, la parole de Dieu pour entretenir le feu divin, la communion fraternelle aussi. Hein, parce qu'on entend certains frères et sœurs dire « Moi, je n'ai pas besoin des autres, je suis avec le Seigneur uniquement. » Mais le Seigneur demande également, le Seigneur veut que tu fréquentes des frères et sœurs, que tu sois dans une église, dans une assemblée, que tu puisses entendre également ce que les anciens ont à dire, ça nous permet justement de prier les uns pour les autres, de pouvoir vivre cette communion fraternelle, comme au premier siècle, les apôtres avaient cette relation, parce qu'ils vivaient constamment ensemble. Donc ils avaient l'habitude de connaître sûrement les faiblesses des uns et des autres, mais également d'apprendre à pardonner, d'apprendre à savoir les faiblesses, de pouvoir prier les uns pour les autres. Et également, l'Esprit de Dieu est là pour nous guider. L'Esprit de Dieu qui est là pourquoi ? Le ministère de l'Esprit de Dieu, c'est pour rendre gloire à Jésus, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Mais l'Esprit de Dieu, on doit avoir cette relation vraiment, cette puissance de pouvoir parler en langue, de pouvoir demander des prières, de pouvoir l'Esprit de Dieu nous guide. C'est lui notre moteur. Et c'est lui qui nous accompagne. Et cette parole dans Luc, cette parole merveilleuse du Seigneur, qui doit être, notre guide, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », dans Luc 4, au verset 18 à 19. Lorsque le Seigneur lit cette parole, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc je la relis, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Alors on peut tous la lire ensemble, et vraiment qu'on puisse la lire d'un seul cœur, d'un seul cœur, d'une seule âme, en proclamant cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons le glorifier. Père Céleste, Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur de nous permettre vraiment de découvrir ta richesse immense, Seigneur. Ton amour immense, ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde pour toute la création, Seigneur. Merci, Seigneur, tu vois ton peuple est là ce matin. Seigneur, tu nous as réunis, tu nous appelles. Seigneur, que cette relation d'enfant de Dieu, Seigneur, qu'on puisse être renouvelé, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un esprit de renouvellement, Seigneur. Un esprit de révélation, Seigneur, que je puisse vraiment comprendre, Seigneur, mais comprendre de manière spirituelle, Seigneur, quelle est cette relation que j'ai en tant qu'enfant de Dieu avec toi, le Père Céleste. Comprendre ma relation de chrétien, ma relation avec mon Seigneur Jésus-Christ. Comprendre que cette relation puisse vivre tous les jours, Seigneur. Que je puisse vraiment, surtout, refléter ta miséricorde, ta compassion que tu as pour les frères et sœurs. Que je puisse refléter cette miséricorde à travers mon témoignage, à travers simplement ce que je suis, Seigneur, que je puisse, Seigneur, que j'ai cette volonté Et donne-moi cette volonté de pouvoir pardonner aux frères et sœurs. Si j'ai été blessé, peut-être aux anciens, peut-être aux pasteurs, s'il y a eu des mots contre moi, il y a eu des blessures, il y a eu des flèches enflammées, Seigneur, que je ne laisse pas le diable gagner la partie, Seigneur. Seigneur, que toute parole, que tu vois mon cœur, Seigneur, tu vois dans mon cœur tout ce qui n'est pas encore, tout ce qui ne t'honore pas. Tu vois ce qui est caché, que je n'ose peut-être même pas te dire, Seigneur, mais toi, tu connais toutes choses. Seigneur, toutes ces blessures, Seigneur, tu les mets à jour. Et Seigneur, et tu les brises, tu brises, tu déverses sur ces blessures un amour, Seigneur. Seigneur, que je puisse être renouvelé, Seigneur, que je puisse avoir cet amour, Seigneur, pour mes frères et sœurs, Seigneur, que je puisse dire pardonner, Seigneur, comme toi tu as pardonné, que je puisse pardonner, Seigneur, peut-être à mes parents, Seigneur, si ils n'ont pas été, ils n'ont pas fait des bonnes choses, peut-être à mes enfants aussi qui m'ont blessé, peut-être à mes frères et sœurs, aux voisins, aux collègues de travail, Seigneur, que je puisse refléter ton amour, Seigneur. Seigneur, que ton peuple est là ce matin, Seigneur. Seigneur, avant ton retour, Seigneur, que ton peuple reflète, Seigneur, cet amour que tu as pour les hommes, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous permettre vraiment de nouveau d'avancer avec toi et de nous permettre de te connaître encore plus avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis.
C'est le moment de la Sainte Cène. Alors Dieu est miséricordieux, il nous aime tel que nous sommes, il a pris notre péché, il a payé notre dette, il a tout fait pour nous. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Merci Seigneur pour sa parole. Et Dieu nous a pardonnés. Parce qu'on était tous des pécheurs, il nous a pardonnés. Qui sommes-nous à ne pas pardonner notre prochain? Le pardon, c'est une puissance qui libère. Et moi, je vous conseille, et je parle à moi-même, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,